Autopsie des séries, présentée par Sébastien Lambert, consultant psychologie sur Beta Série, la radio.
Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne suis donc pas avec Clément, mais je suis avec Hugo, journaliste et responsable éditorial sur Beta Série, la radio. Bonjour Hugo.
Bonjour Sébastien. Alors aujourd'hui, tu voulais nous parler de la série You, c'est ça ?
Eh bien oui, aujourd'hui You, et plus particulièrement de Joe Goldberg, qui est interprété par Penn Bagley. Alors lui, il joue un rôle d'un libraire envoûté par Gwyneth Verbeek, une jeune écrivaine en devenir, en tout cas pour la saison 1.
Oui, parce qu'en fait, dans la saison 2, d'autres personnages vont venir le hanter.
Exactement. Et d'ailleurs, Joe changera d'identité pour s'appeler Will. Mais nous parlerons ici de Joe pour plus de compréhension.
Et toi, dans quelle catégorie tu rangerais cette série ?
Pour moi, You, c'est un vrai thriller psychologique. Cette série, elle est assez fidèle à la pathologie de Joe, avec très peu d'incohérences. Alors là, bravo au créateur. Parce que pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Joe, ce libraire, qui semble si gentil la plupart du temps, va également commettre des meurtres.
Et ça ne te ferait pas penser à une célèbre affaire ?
Alors si, il y a une célèbre affaire. Il nous envoie à cette triste affaire américaine de John Warnock Hinckley Jr. Cet homme qui a stalké Jodie Foster et qui a tenté d'assassiner le président des États-Unis, à l'époque Ronald Reagan, le 30 mars 1981, pour impressionner Jodie. Il lui avait écrit une lettre une heure avant d'avoir exécuté son geste. Et voilà ce que John avait écrit à Jodie. « Je fais tout ceci pour toi, en sacrifiant ma liberté et peut-être ma vie. J'espère que tu changeras d'avis à mon sujet. » Cette lettre est écrite une heure avant de quitter l'hôtel Hilton. « Jodie, je te demande de regarder dans ton cœur, s'il te plaît, et au moins me donner la chance, avec ce fait historique, de gagner ton respect et ton amour. »
Ben ça, c'est une introduction intéressante pour nous parler de Joe dans la série. C'est vraiment un parallèle qui lance parfaitement le sujet de la psychose du perso, en fait. Donc voilà, explique-nous un peu tout ça.
Eh bien oui, je vais vous parler de John. Je vais vous parler de John Warnock Hinckley Jr. qui a stalké Jodie Foster, tout comme Joe le fait avec Beck.
Attends, mais stalker, c'est quoi ?
Alors, c'est un anglicisme qui a le sens de traquer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, ce mot anglais, il est désigné pour la chasse, dans le sens guetter, traquer sa proie. Et aujourd'hui, nous l'utilisons pour la chasse, mais à laquelle se livrent les admirateurs d'une célébrité qui souhaite, mais à tout prix, entrer dans sa vie. Et là, le parallèle avec Joe est génial. Lui, il traque, mais il chasse aussi. Il va jusqu'à tuer les personnes qui encombrent la vie de Beck et ceux qui pourraient se mettre à travers de leur amour.
Et pourquoi la série s'appelle You ?
Je sais pas exactement, mais le nom est très bien choisi. Parce que les anglophones, quand quelqu'un leur demande quelle série ils regardent, ils répondent « I'm watching you ». Je regarde You. Mais qui signifie surtout, c'est ça qui est intéressant, je suis en train de te regarder. Et c'est ce que fait Joe d'ailleurs tout au long de la série. Alors vraiment là, les créateurs de la série, ils ont pensé à tout.
Donc Joe et puis Beck tout au long de la première saison.
Eh bien oui, mais c'est dangereux. Il ne doit pas se trahir avec les informations qu'il récolte. Par exemple, dans la saison 1, Beck veut acheter un lit. Alors il lui dit de pas prendre le king size, car sa chambre est trop petite. Alors là, elle lui demande comment il sait ça. Alors pour ne pas lui avouer qu'il est allé chez elle en cachette, il répond que tous les appartements sont petits à New York. Alors bien évidemment, pour cette fois ça passe, mais alors il doit être de plus en plus vigilant au fur et à mesure que la série avance.
Du coup Joe est un personnage intrigant, mais pourquoi ?
Alors certainement parce qu'il a un double visage. Le libraire sympathique et équilibré, mais qui cache un psychopathe sans remords ni culpabilité.
Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as trouvé vraiment intéressant dans cette série ?
Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que nous avons accès à sa petite voix intérieure. Cette voix off nous montre la plupart du temps un personnage qui est posé, réfléchi. Il parle calmement, il s'énerve jamais. Et même quand il se parle à lui-même. Alors ça nous permet de saisir encore plus l'étendue de sa folie.
Alors de quelle maladie mentale souffre vraiment Joe ?
Alors bien pour moi, Joe, il souffre de paranoïa. Alors, il s'agit d'une psychose qui est caractérisée par un délire standardisé, alors sans affaiblissement de ses capacités intellectuelles. Et ça, c'est important de le signaler, parce que grâce à ça, il peut avoir une vie, mais comme monsieur tout le monde. Il faut savoir que cette maladie, elle touche plus les hommes que les femmes.
Et est-ce que c'est vrai que la paranoïa est plus importante à partir de 40 ans ?
Eh bien oui, c'est ce que les études ont montré. La paranoïa entre dans le cadre psychotique. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs délires paranoïaque. Et c'est là que l'on voit le vrai travail des créateurs de cette série. Alors, il y a très peu d'incohérences dans You, et en plus, ils ont été nous chercher un type précis de paranoïa, et pour ça, bah, vraiment, je leur dis encore une fois, bravo.
Mais depuis quand vraiment on parle de paranoïa ?
Eh bien, la paranoïa a été caractérisée en tant que telle vers la fin du 19e siècle, par le psychiatre allemand Kraepelin. Et selon lui, bah, on ne peut pas guérir les personnes qui en sont atteintes. Alors la France, elle, devra attendre vers 1926 pour que le médecin aliéniste Gilles Perrin en parle. Et puis viendront, bien sûr, ensuite les écrits de Lacan.
Et pourquoi une personne peut être paranoïaque ?
Alors là, les causes de la paranoïa peuvent être différentes. Pour Joe, moi j'irai chercher du côté de son enfance. L'expérience qu'il a vécue à cette période-là a joué un rôle important sur le développement de sa pathologie. Alors on a un père violent, une mère absente. En plus, il a été recueilli par Monsieur Moulet, le libraire, qui a fait office de figure paternelle. Mais celui-ci, il s'avère violent et castraté.
Et est-ce que toutes les enfances peuvent créer des paranoïaques ?
Les études montrent que bien souvent, un adulte paranoïaque est un enfant qui a été élevé dans la croyance que le monde est un endroit dangereux et que les gens sont horribles.
Du coup, est-ce que tu peux peaufiner un peu le type de paranoïa que Joe a développé ?
Selon le psychiatre allemand Kretschmer, il existe trois types de paranoïaques. Il y a les paranoïaques de combat, il y a les paranoïaques de souhait et les paranoïaques sensitifs.
Ok, et Joe, il a quel type de paranoïa ?
Alors moi, je suis parti sur le constat qu'il serait paranoïaque sensitif. Alors, toujours selon Kretschmer, c'est une forme dépressive de paranoïa. Alors, les personnes qui en sont atteintes se construisent sur des interprétations délirantes, parfois caractérisées par des pensées de persécution, de préjudice, de mépris ou même d'atteinte des valeurs morales.
Et est-ce qu'une personne qui a ce type de paranoïa pense que le monde entier lui veut du mal ?
Alors, bien souvent, ce trouble s'étend rarement au-delà du cercle relationnel proche du sujet, comme les collègues, la famille, les voisins. Et c'est d'ailleurs ce qu'il se passe dans la série. Par exemple, pour protéger le fils de la voisine, Joe, il va s'investir un petit peu trop en tuant le beau-père dangereux.
En fait, ce qui m'a surpris dans la série, c'est que Joe est vraiment soucieux de ce petit et vraiment à nombreuses reprises. Il est vraiment gentil. On sent vraiment que c'est insensible, en fait.
Alors oui, c'est vrai, Joe est un sensitif. Il est sensible aux réactions des autres. Mais par ce fait, il est facilement blessé. Et d'ailleurs, on le voit à plusieurs reprises dans la série. Une autre facette d'ailleurs que l'on peut voir chez Joe et qui m'a amené à cette piste, c'est ce sentiment de persécution ressenti qui est tellement fort qu'il donne l'impression au persécuté que l'on s'intéresse à lui de manière mais excessive.
Et parfois dans son comportement ou sa voix off, on a vraiment l'impression que Joe se sent supérieur aux autres.
Alors oui, Hugo, exactement, chez les paranoïaques sensitifs, c'est un des traits que l'on peut noter. Ils ont en opposition un sentiment d'infériorité, voire d'auto-dépréciation, et un mélange qui est très déstabilisant pour eux.
En fait, c'est comme un mélange d'orgueil et d'humilité.
Alors oui, alors qui parfois, lors d'un événement pénible, comme un regard désagréable ou une attitude hautaine, suffit à déclencher chez eux un délire. Et c'est ce qui va amener d'ailleurs Joe à tuer.
Mais en fait, on comprend vite, lors de la saison 1, qu'il est un serial killer peu aguerri.
Oui, c'est vrai. Il a quand même fait 5 morts dans la saison 1. Et même si on sent que dans la saison 2, il y a un vrai désir de changer, il va encore tuer 2 personnes en 10 épisodes. Alors, ce qui porte pour le moment à 7 morts en 2 saisons. Donc, lors de la saison 3, on ne sait pas si Joe va réellement changer. Si on pourra se concentrer sur son évolution personnelle, mystère.
Maintenant, peaufiner un peu plus l'esprit de Joe, si tu veux bien, Sébastien.
Eh bien, malgré quelques incohérences, Joe souffre du syndrome de Clérambeau. Alors, on l'appelle aussi l'érotomanie. Alors ça, c'est une psychose qui se fonde sur l'illusion délirante d'être aimé par un autre.
Alors, avant de nous en expliquer un peu plus, donne-moi un peu les raisons de ces incohérences dont tu parlais juste avant.
La première, l'érotomanie touche majoritairement des femmes, et exceptionnellement des hommes. Et la deuxième, l'érotomane, en règle générale, il tombe amoureux d'une personne dont les fonctions sociales ou professionnelles sont considérées dans son esprit comme supérieures, comme par exemple un médecin, un artiste ou un avocat. Mais alors bien évidemment, il y a des exceptions qui confirment la règle, parce que Beck n'aura du succès qu'une fois morte.
Et qu'est-ce que vraiment le syndrome de Clérambeau, que l'on appelle aussi l'érotomanie ?
Eh bien, l'érotomanie, c'est une psychose qui rentre dans la paranoïa, sans hallucination, et qui s'exprime par des délires, par des fausses interprétations, qui se fondent sur l'illusion délirante d'être aimé par un autre.
Et pourquoi ce nom Clérambault ?
Ah ben, ça, c'est le psychiatre Gaëtan Gassien de Clérambault qui, en 1921, partant d'un cas clinique, présente la première analyse complète sur ce qu'il appelle les psychoses passionnelles. Et c'est donc lui qui donnera son nom à la maladie.
Donc l'érotomane est persuadé que c'est l'autre qu'il aime, qui lui donne des signes, comme Beck en donne involontairement dans la saison 1, lors de sa première rencontre dans la librairie avec Joe.
Eh bien oui, et tu fais bien de le dire involontairement, car quand on entend ce qui se passe dans la tête de Joe à ce moment-là, eh bien, on comprend vite dans quel délire il se trouve. Il faut savoir que tout, absolument tout de la victime de l'érotomane est décrypté et perçu comme un signe d'amour. Alors, comme par exemple la posture de Beck ou le chemisier qu'elle porte sans soutien-gorge.
Et à un moment, l'érotomane cherche à entrer en contact avec la personne, persuadé que c'est elle qui le souhaite ?
Alors oui, dans le cas de Joe. Il téléphone à Beck, lui envoie des messages, la suit, s'immisce peu à peu, bien sûr, dans sa vie, en se rendant à son domicile et en tentant de pénétrer son intimité.
Ok, et Joe rentre complètement dans ce rôle, avec Beck, mais aussi dans la saison 2 avec Love.
Alors oui, par exemple, quand Joe attend des heures sur le trottoir en face de l'appartement de Beck, ou alors quand il s'approprie ses objets personnels comme ses sous-vêtements, sans qu'elle ne s'en doute. Et d'ailleurs, bah, il va recommencer avec Love.
Et je crois savoir qu'il y a 3 phases dans l'érotomanie.
Alors oui, alors la première, bah, c'est l'espoir, qui est la phase la plus longue, car bah, il est dans l'attente que l'autre se déclare à lui. Et bien souvent, l'érotomane pense que c'est à cause de son entourage que l'autre ne peut pas se déclarer.
Et la deuxième phase ?
Alors ensuite, bah, il y a le dépit. Alors la personne bah, ne s'est pas déclarée à lui, et il le vit une immense déception. Et ça, c'est la phase durant laquelle l'érotomane peut sombrer dans la dépression. Alors phase d'autant plus dangereuse qu'il n'est pas rare que l'érotomane bah, devienne à ce moment-là plus agressif.
Et la troisième ?
Eh bien, c'est la rancune. C'est une phase bien mise en avant dans la série. L'agressivité va se tourner vers l'être aimé, vers son entourage. Car, bah, bien sûr, vous l'aurez compris, il est persuadé que c'est l'entourage, c'est les autres, qui ont fait que l'objet du désir n'a pas pu se déclarer. Cette phase va du harcèlement jusqu'au meurtre. Alors, elle peut même conduire au suicide du malade lui-même. Et en ce qui concerne les causes, bah, les experts ne sont pas certains de leur hypothèse. Mais la plus évidente est le manque affectif durant l'enfance. Et pour certains, ben, ce manque ben, provient principalement du père, et c'est dont Joe a souffert le plus, et que l'on aura compris au fil de la saison 1.
Eh bien Sébastien, merci pour cette analyse, c'était vraiment hyper clair. Hein.
Eh bien avec plaisir Hugo, c'était une série facile à autopsier, parce que ses créateurs ont vraiment fait quelque chose de très cohérent. Ils n'ont pas bon, inventé ce personnage au hasard, hein. On sent qu'il y a eu un gros travail de recherche. Alors c'est d'autant plus intéressant et flippant de se dire que ben, c'est possible qu'un tel personnage existe dans la réalité.
Autopsie des séries, présentée par Sébastien Lambert, consultant psychologie sur Beta Série, la radio.